Chapitre 46. L'évangile prêché à des milliers de catholiques romains à Montréal. J'entends le curé de Napierville me dénoncer du haut de la chaire. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Psaume 46, 2. Le 2 février 1859, au matin, le cœur m'aurait manqué si les paroles du prophète placées en tête de ce chapitre n'étaient venues me fortifier. De bonne heure, le tentateur avait murmuré à mes oreilles. « Que peux-tu faire ici, seul, maudit par tout le clergé et absolument abandonné par les protestants? Car as-tu vu un seul de leurs pasteurs ou même un seul co-religionnaire ici, hier soir, pour te serrer la main et te souhaiter la bienvenue? Les 75 Canadiens français qui t'ont sauvé la vie sont des libres penseurs qui ne se soucient nullement de l'évangile que tu veux prêcher. Ils t'aiment parce qu'ils pensent que tu les aideras à démolir le pouvoir des prêtres qu'ils craignent et haïssent. Mais ce sont des oiseaux de nuit. Tu ne les verras pas pendant le jour. Ils ont honte de toi. Ils ne veulent être ni vus ni connus comme tes amis. » 10 heures avaient sonné et j'étais encore seul. Chaque minute de cette solitude prolongée me semblait aussi longue que les heures de la nuit semblent interminables aux pauvres malades dévorés d'une fièvre ardente. Mon cœur était rempli d'une tristesse indicible. J'avais l'âme comme écrasée sous une montagne de plomb. Je tombais à genoux et avec mes larmes, je priais celui-là seul de qui peut venir tout secours, toute force et toute vie. Mais mon Dieu avait entendu mes humbles supplications même avant que je les aie exprimées. Car j'étais à peine agenouillé que j'entendis frapper 3 coups à la porte. On venait me dire que plusieurs personnes désiraient me voir. « Faites-les entrer, » répondis-je. Et j'eus la joie de voir une petite troupe de 30 fermiers des environs de Montréal qui avaient été du nombre de mes amis dévoués quand j'avais prêché la tempérance, entrer pour me donner une cordiale poignée de main, en même temps qu'ils m'assuraient que toute la population des environs de Montréal avait été heureuse d'apprendre que j'étais venu de nouveau passer quelques semaines au Canada. J'avais à peine eu le temps de leur offrir des chaises qu'il en arriva encore davantage, jusqu'à ce que la grande salle fût tellement remplie qu'il n'y avait plus de place. J'étais hors de moi de surprise et de joie. « Mes chers amis, leur dis-je, je ne puis trouver de parole pour vous exprimer combien je remercie Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de voir un si grand nombre de mes compatriotes. Vous vous rappelez comme nous étions heureux il y a quelques années, quand j'établissais des sociétés de tempérance dans tout le Canada. Je vois par votre expression que vous n'avez pas oublié ces beaux jours. Je vous apportais alors une invitation à vous désaltérer aux eaux qui coulent des sources jaillissantes de la vie éternelle. Vous l'avez goûtée et elle vous a donné une nouvelle vie. Vous avez accepté l'œuvre de la tempérance comme l'un des plus grands bienfaits que Dieu put accorder à notre beau Canada. Aujourd'hui, je viens vous offrir non plus une source, mais tout un océan de ces eaux vivifiantes en vous présentant cette Bible comme le don le plus précieux que le ciel ait jamais fait à la terre. Je reviens au milieu de mes compatriotes pour leur demander d'accepter cette Bible comme le don le plus précieux que Dieu ait jamais fait à l'homme. Vous l'accepterez, je l'espère, comme le pain de vos âmes, comme la lumière de vos pas, comme la clé qui ouvre la porte du ciel à ceux qui la possèdent. Pendant 1 heure environ, je parlais de la Bible, de la nécessité de l'accepter, de la lire, de l'étudier dans toutes les familles canadiennes, comme le seul moyen de rendre notre cher pays grand, heureux, prospère et libre. Je n'ai jamais rien vu de pareil à l'attention respectueuse et à l'intérêt de mes auditeurs pendant cette heure bénie. Mais comme je parlais, un agent de police vint m'interrompre en disant « La rue est tellement remplie d'une multitude de gens qui veulent vous voir et vous entendre que la circulation en est embarrassée. Bien que ce soit contre la loi de laisser une pareille foule obstruer la rue, nous n'avons pas voulu nous montrer sévères pour ces pauvres gens qui nous disent que tout ce qu'ils désirent, c'est de vous voir et vous entendre encore une fois, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Voudriez-vous être assez bon de leur accorder la faveur qu'ils m'ont chargé de vous demander de leur parler pendant quelques minutes depuis la fenêtre de l'hôtel ?» Après avoir prié ceux qui m'entouraient de m'excuser si je les laissais seuls pendant quelques minutes pour me rendre à la demande de leurs amis qui étaient dans la rue, j'ouvris la fenêtre. À ma grande surprise, je vis que le policier n'avait pas exagéré. La rue était tellement remplie de monde que la circulation était devenue absolument impossible. Cette foule manifesta si bruyamment sa joie quand je mis la tête à la fenêtre que je restai presque muet, tant était forte l'émotion qui m'étreignait. Mon allocution dura à peine 15 minutes. Sur ce texte, je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Après les avoir exhortés à lire l'évangile et à le prendre comme le guide le plus sûr à la vie éternelle, comme la seule règle de conduite pour devenir un peuple grand, heureux et prospère, je les remerciais de l'honneur qu'ils m'avaient fait en venant, quelques-uns de loin, pour entendre le message que j'avais à leur communiquer, et j'adressais une courte prière demandant à Dieu de les bénir, eux et leur famille. Alors une voix partant de la foule se fit entendre. « Seriez-vous assez bon pour nous donner l'une de ces Bibles dont vous nous avez dit de si belles choses ?»« Oui, répondis-je, venez cet après-midi et vous en aurez tant que vous voudrez. » Il était alors près de midi. J'avais parlé en tout pendant plus d'une heure et demie et je sentais le besoin de repos. Aussi, après une courte prière, je congédiais les amis qui remplissaient le salon. Mais plusieurs d'entre eux avaient des questions à me poser et ils me demandèrent la permission de revenir après avoir exprimé leur gratitude de ce qu'ils avaient entendu. Quelles paroles peuvent exprimer mes sentiments d'étonnement et de gratitude envers mon Dieu quand je fus seul et que je me mis à penser à ce que j'avais vu ce matin-là? Il n'était pas encore 2 heures que non seulement le grand salon était de nouveau rempli, mais également la rue, au point qu'elle était devenue impassable. À la requête de la police, je m'adressais depuis la fenêtre aux amis qui se trouvaient dans la rue. Après leur avoir parlé pendant une demi-heure, je les renvoyais. Puis, je fis une allocution d'une heure à ceux qui étaient dans le salon. Mais, quand j'eus fini, une nouvelle foule, tout aussi considérable, qui s'était rassemblée dans la rue et dans les corridors, remplit de nouveau la grande salle, et il était près de 5 heures, quand, absolument épuisé, je pus enfin respirer à l'aise seul. J'oubliais bientôt ma fatigue quand l'un des chrétiens les plus éminents du Canada, Sir William Dawson, fut assez bon de me rendre visite avec M. James Court, l'un des fondateurs des écoles de la Pointe-aux-Trembles, et de m'inviter à dîner à sa résidence à l'université McGill. L'élite des protestants de Montréal, les Dougal, les Mackay, les Redpath, les Lehman, etc., étaient là pour me souhaiter la plus cordiale bienvenue que j'ai jamais reçue de mes frères protestants de Montréal. Je ne pus rester avec eux que peu de temps, car mes amis canadiens-français vinrent me chercher en traîneau pour me conduire au Mechanic Hall où 2000 de mes compatriotes catholiques romains attendaient une conférence sur les raisons pour lesquelles j'avais quitté l'église de Rome. Afin de tenir l'élément tapageur loin de nos assemblées, mes amis avaient décidé que personne n'entrerait dans la salle sans payer 25 cents pour m'aider à défrayer mes dépenses. Mes lecteurs béniront le Seigneur avec moi et diront certainement avec le prophète « Ses compassions surpassent toutes ses œuvres ». Quand ils sauront que l'histoire de ma première journée à Montréal fut identique à celle des 4 jours suivants, à la seule exception que le second jour, je fus reçu par M. Redpath et le troisième par M. Lehman. Bien qu'au cœur de l'hiver, la providence divine voulut que ces 4 jours passés à Montréal fussent si doux et le soleil si brillant que la neige fondait continuellement. Aucun désordre ne se produisit à nos assemblées, excepté à celle du samedi soir, où quelques individus, envoyés par les prêtres, essayèrent de faire du bruit, mais ils furent arrêtés par la police et expulsés de la salle. Pendant ces 4 jours, j'eus le privilège d'offrir le pain de vie, pour le moins, à 10 000 âmes affamées et de distribuer 800 Bibles et Testaments. L'éternité seule manifestera le bien fait pendant ces 4 jours. L'Église romaine perdit son pouvoir sur beaucoup de ceux qui commencèrent à voir la lumière de l'Évangile. Sans doute, la moisson n'était pas mûre pour être recueillie immédiatement, dans les greniers du Père Céleste. Mais la bonne semence ne fut pas perdue. Aujourd'hui, nous voyons partout les résultats de l'œuvre faite à cette époque. La nuit du samedi avait été choisie par mes amis pour aller à Napierville, la première localité que nous désirions attaquer. Bien que très fatigué, je voyageais toute la nuit pour être au village le dimanche, de grand matin. Nous avions constaté que c'était le moment le moins dangereux du jour. Il était environ 4 heures du matin quand je pus prendre quelques repos dans la maison d'un ami. Mon sommeil de 4 à 11 heures fut profond. J'avais le cœur rempli d'une telle joie, et les expressions de gratitude des milliers de personnes auxquelles j'avais annoncé l'Évangile pendant les 4 derniers jours résonnaient dans mon âme comme une musique céleste. Quand le moment où les catholiques romains ont l'habitude de sortir de l'église après la messe fut arrivé, je me préparais pour aller les rencontrer à la porte de l'église. Mon hôte essaya de me dissuader de mon projet en me représentant le péril évident auquel j'allais m'exposer d'être insulté ou battu, sinon tué même par ses fanatiques. « C'est aujourd'hui, me dit-il, que le mandement de l'évêque contre vous doit être lu à l'église. On vous y dépeindra sous les plus noires couleurs. Les gens seront animés contre vous quand ils entendront le curé vous appeler un loup dévorant. Ne faites pas une pareille imprudence alors que personne ne vous protège. » Je lui répondis. « Vous vous trompez quand vous pensez que je suis seul. Je ne viens pas ici en mon propre nom, ni pour mon intérêt ou mon plaisir personnel. En voyageant la nuit dernière avec 3 pieds de neige par une des nuits les plus froides de l'hiver canadien, je n'avais certes aucun agrément. D'autre part, je n'ai sûrement aucun intérêt à aller m'exposer au milieu de ce pauvre peuple trompé. Mais je suis l'ambassadeur du Christ et je suis sûr qu'il est avec moi pour me protéger comme il protégea Daniel dans la fosse aux lions. » Je me rendis donc à la porte de l'église. Arrivé là, je l'entrouvris sans bruit pour voir si le service approchait bientôt de sa fin. Le prêtre était en chaire et commençait justement à lire la longue et terrible lettre de l'évêque. J'étais représenté comme le suppôt du démon, un monstre, un loup dévorant parmi les brebis sans défense. On défendait au peuple sous peine d'excommunication et de damnation éternelle de m'écouter, de me serrer la main, de me loger et de me recevoir dans leur maison, etc. Quand le curé eut fini de lire cette intéressante lettre de son supérieur, il fit quelques remarques affirmant que les feux éternels de l'enfer seraient le partage de celles de ces ouailles qui écouteraient mes paroles séductrices, converseraient avec moi ou même me serreraient la main. Il ajouta « Ce monstre a déjà envoyé en enfer des milliers d'âmes précieuses et il ne vient dans ce pays qu'à l'instigation du diable pour vous perdre et vous damner. Bien que j'espère qu'il ne viendra pas souiller notre chère paroisse de Napierville par sa présence pestilentielle, j'aime à croire que, s'il y vient, vous lui ferez une réception telle qu'il ne sera jamais plus tenté de revenir. » Après ces paroles, il finit sa messe, donna la bénédiction au peuple et le congédia. J'avais fermé la porte avant que personne puisse soupçonner que j'étais là, entendant tout le discours du curé, et je m'étais retiré à l'angle de la haute estrade par où les assistants devaient passer en sortant de l'église pour prendre l'escalier. Aucune expression ne saurait peindre la surprise de ces braves gens quand, en sortant de leur église, ils constatèrent ma présence et me reconnurent. Ils n'en pouvaient croire leurs yeux. Je leur apparaissais comme un fantôme, ainsi que quelques-uns me le dirent plus tard. D'autres pensaient qu'ils rêvaient. J'avais déjà visité bien des fois cette paroisse quand j'étais prêtre au Canada. J'avais passé des semaines entières au milieu de cette population, prêchant, confessant et faisant signer l'engagement de tempérance. Tous me connaissaient donc et m'avaient aimé jusqu'à ce jour, comme si j'avais été leur propre père. Leurs yeux avaient à peine rencontré les miens qu'ils avaient déjà oublié tout ce qu'ils avaient entendu dire par leur prêtre. Beaucoup, me serrant la main avec effusion, me disaient « Que nous sommes heureux de vous voir encore une fois au milieu de nous !» Beaucoup d'autres, incapables d'approcher de moi, à cause de la densité de la foule qui grossissait, ils se poussaient en descendant les escaliers avec la force irrésistible d'une avalanche et se disaient les uns aux autres, avec des signes de joie auxquels on ne pouvait se méprendre, « Le père Chiniki ici ? Le père Chiniki ici ? Est-ce possible que nous sommes heureux de le revoir ?» 2 ou 3 seulement murmurèrent. « Le père Chiniki n'a rien à faire ici. Notre devoir est de le chasser. » Mais leur voix fut vite étouffée par des centaines de personnes répliquant « Si vous ne voulez ni voir ni entendre le père Chiniki, fermez les yeux et partez. Quant à nous, nous voulons le voir et l'entendre encore une fois. » Je ne crois vraiment pas qu'il se soit jamais produit, dans toute ma carrière, un fait aussi étrange. Je sentis plus que jamais en cette heure, extraordinaire, que le Seigneur était mon gardien et qu'il était avec moi. À mesure que les gens descendaient les escaliers poussés par la foule qui continuait à sortir de l'église, ils tournaient leur visage vers moi. Au bout de quelques minutes, j'étais seul sur cette haute estrade. J'avais à mes pieds plus de 1000 de mes compatriotes qui, évidemment, attendaient pour écouter ce que j'avais à dire. Aussitôt que les derniers eurent pris position à mes pieds, je commençai. Mes amis et chers compatriotes, vous venez d'entendre dans votre église ce que vos prêtres et vos évêques fulminent contre moi. Maintenant, n'aimeriez-vous pas connaître ce que j'ai à dire pour ma défense? Vous êtes trop honnête et trop chrétien pour condamner un homme sans l'entendre, même s'il est accusé par vos prêtres et par vos évêques. Dieu vous a donné 2 oreilles afin que vous puissiez entendre les 2 côtés d'une accusation. Je ne viens point ici pour dire un seul mot contre vos vénérables évêques ni contre votre pasteur. je les respecte. Tout ce que je vous demande, c'est de me permettre de dire quelques mots pour ma défense et de vous expliquer ma position actuelle. Voulez-vous m'accorder cette faveur ? Tous répondirent d'une seule voix : « Oui, père Shiniki, parlez, nous serons heureux de vous entendre. » Je continuai donc. Beaucoup d'entre vous sont à jeun, car quelques-uns ont reçu la communion ce matin, je le sais. Beaucoup de bonnes mères sont pressées de revoir leur petite famille à la maison. Et nous sommes tous en plein air où il est dangereux de parler longtemps. Je vous demande de me faire le plaisir de venir m'entendre à 3h cet après-midi dans la grande salle qui se trouve au milieu de votre beau village. Quand je suis venu ici, j'étais sûr que je me trouverais au milieu d'une population noble et intelligente et je ne m'étais pas trompé. La manière dont vous m'avez reçu, immédiatement après ce que vous aviez entendu, me donne l'assurance que vos esprits sont aussi larges que vos cœurs sont généreux, puisque vous ne me condamnez pas sans m'entendre. Partout où votre conduite envers moi sera connue, il n'y aura qu'un cri d'admiration en constatant votre esprit de justice et d'impartialité et l'on vous louera. Que le Dieu de l'Évangile vous bénisse tous et qu'il bénisse notre cher Canada à tout jamais. Toute la foule n'eut qu'une voix pour répondre. Que Dieu vous bénisse aussi, cher père Shiniki. Et elle se dispersa tranquillement.